Odyssée immigrée par Sophie Aluc.
Il y a environ 20 ans, je rencontrais monsieur Ghani Baradji, migrant malien au foyer du Centenaire à Montreuil, en fait un vieil entrepôt derrière la rue de Paris, qu'il avait investi avec ses compagnons et qu'ils autogéraient depuis 1996. Il m'a raconté les longues années de lutte pour un logement décent dans cette ville. Après la destruction en 1980 d'un premier foyer rue Léon Gaumont, en bordure de périphérique, le maire de l'époque, Marcel Dufriche, a promis aux habitants la construction d'un nouveau foyer et les reloge provisoirement rue Nouvelle-France, sur un terrain vague du Haut-Montreuil, dans des baraques de chantier en contreplaqué où ils étaient censés rester 2 ans maximum. Mais le nouveau maire, Jean-Pierre Brard, s'oppose à la reconstruction, pour lui synonyme de ghetto, et leur propose 15 ans plus tard une solution censée favoriser leur intégration, les disperser en foyers-hôtels en Ile-de-France, des bâtiments avec peu de place, pas d'espace collectif et hors de la ville où ils ont jusque-là construit leur vie. Ce que M. Baradji ne dit pas, c'est que devant leur refus, le maire a finalement fait venir les bulldozers, mettant à la rue ces 300 migrants qui ont fini sous des tentes devant la mairie pour faire connaître leur situation, puis dans plusieurs squats, avant d'arriver pour certains rue du Centenaire, après 3 mois d'errance, dans un entrepôt que le propriétaire privé a, contre toute attente, accepté de leur louer. Soninke, venu du bassin du fleuve Sénégal, ces migrants maliens, mauritaniens ou sénégalais, avaient décidé de se battre pour préserver ce qui était essentiel à leurs yeux. Un mode de vie collectif, où la solidarité et le partage sont centraux, où le nouvel arrivé est pris en charge, tout comme le chômeur. Ils se sont dressés pour défendre leur façon de vivre ensemble, dans la préservation des valeurs de leur culture, avec une devise presque ironique, partager pour mieux régner. En décembre 2015, gentrification du Bas-Montreuil oblige, ces migrants ont quitté la rue du Centenaire et ont enfin obtenu ce qu'ils attendaient depuis si longtemps. Un habitat au cœur de Montreuil, avenue Pasteur, construit en concertation avec eux et désormais géré avec le bailleur Habitat Est Ensemble. Monsieur Baradji, qui a 76 ans aujourd'hui, vit entre le Mali et la France, où il vient pour se soigner et voir ses enfants qui ont fait leur vie ici. Dans le foyer du nouveau centenaire, où il a encore sa chambre, il retrouve ses camarades de lutte et de vie. Son témoignage, ses mots percutants, sont un héritage précieux qu'il nous lègue en partage.
Alors nous sommes ici au foyer qu'on appelle le Centenaire, c'est ça, à Montreuil. Et quand vous êtes arrivé en France, est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que vous pouvez nous dire quel jour c'était et où est-ce que vous l'avez passé cette première nuit en France?
Je suis venu ici le 29 janvier 1971. Je l'ai passé dans le foyer au 49 avenue Longon à Montreuil. Et c'était une nuit de galère parce que c'était sous le Lipico que j'ai passé la nuit. Alors je me rappelle toujours de ça. C'était la guerre, pourquoi? Parce que chez moi, j'avais ma petite maisonnette, j'avais mon petit lit, et tandis qu'ici, je me couchais entre les gens sur un lit picot. C'est-à-dire les lits de campagne, là. Les petits lits qui voyaient les lits pliants, là. Voilà. À cette époque, j'avais 22 ans. Alors, par rapport à chez moi, il y avait plus de bruit. J'étais habitué seul, et je suis au milieu de. On était 8 et on était 10 dans la chambre. Donc vraiment, j'étais très embêté. Je suis venu, c'est un membre de la famille, parce que j'avais un cousin paternel qui était là, qui m'a fait venir. Bon, c'est dû, comme vous le savez, en Afrique, c'est par le manque de moyens. Il y avait la chasseresse qui s'installait là-bas à cette époque. Bon, il fallait quelqu'un de la famille ici pour pouvoir parvenir aux besoins de la famille restant là-bas. Comme lui, il était le cousin, il ne pouvait pas parvenir tout seul. Bon, il m'a fait venir pour qu'on s'entraide.
Je voulais vous demander justement quelle était la première image que vous aviez de la France avant de venir et après.
La première image que j'avais de la France, c'était le paradis terrestre. Mais après, j'ai découvert que c'était l'enfer. Parce que, point de vue, là où nous vivons, les conditions sont pénibles. Et aussi, comme nous, on est habitué au soleil, il y avait le froid qui s'installait. Donc, c'était la galère. Mmh. Voilà.
Et pourquoi cette image de paradis terrestre?
Parce que j'avais des cousins ou des copains qui venaient d'ici et qui s'habillaient très bien en cravate, souliers, tout ça. Donc, en les voyant, on dit, bon, ben, ces gens sont partis du paradis terrestre. Or, que c'est le contraire.
Alors, expliquez-nous ce que c'est l'enfer ici.
L'enfer ici veut tout dire. Donc, il y a l'individualisme, chacun pour soi. Ça, chez nous, on ne connaît pas ça. Et il y a aussi cette fatigue interminable. Parce que chez nous, il y a un temps pour travailler, un temps pour reposer. Tandis qu'ici, quand on commence à habiter, il faut aller jusqu'à 16 heures. Alors, donc, il y a toute une différence d'habitude, quoi. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment l'enfer.
Quel a été votre premier métier en France ?
Mon premier métier en France, c'était une usine d'emballage. Alors, j'étais au service de l'expédition. On emballait les colis, on les chargeait. C'était là, j'avais commencé par là. Et après, j'ai continué dans d'autres métiers. J'ai fini par être cuisinier dans les hôpitaux.
C'est ce que vous faites encore aujourd'hui ?
Aujourd'hui, je suis à la retraite.
D'accord. Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui ?
J'ai 61 ans.
Voilà. Parlez-nous un petit peu de vos métiers. Vous parliez de pénibilité du travail. Alors expliquez-nous en quoi c'était pénible, votre travail.
La pénibilité du travail, tout premièrement, et on ne se trouvait pas dans ces domaines parce que c'est pas ça, on ne connaît pas ça chez nous. Donc quand tu ne connais pas, le commencement, c'est très dur. Et quand tu ne tombes pas avec quelqu'un qui essaie de comprendre, c'est un peu compliqué. Donc il y a cette pénibilité. Aussi, il y a le va-et-vient là-dedans, que nous, on n'est pas habitué à ça. Dans un travail, nous, on est soit tu es berger, tu es agriculteur ou pêcheur, tu as un travail fixe. Tandis que là, c'est divers. Tantôt en haut, tantôt en bas. Alors, effectivement, le va-et-vient était un peu...
Vous voulez dire le va-et-vient, c'est ça ?
Le va-et-vient, oui.
Ah oui, d'accord.
Oui. Parce que là, vous savez, dans ces services-là, il faut marcher trop. Parce qu'il faut charger ses camions par-ci, il faut aller emballer le colis par-là. Donc, il faut... comment dirais-je, rassembler, préparer le colis. Donc, ça fait un va-et-vient, quoi. Donc, c'est un peu...
Ah oui, ça, c'est le premier métier.
Le premier métier.
D'accord. Mais en tant que cuisinier, ça consistait en quoi ?
Là, c'était la préparation. Bon, alors, on suivait le menu. Bon, la préparation, c'est qu'il faut faire là, la journée. Voilà, ben, c'était une maison de retraite où j'étais, dans le 5e arrondissement, la rue Ferrand-Moulin, dans le 5e. Bon, j'étais là-bas, une maisonnette de 120 personnes. On était deux cuisiniers, il y avait deux plongeurs et quatre femmes de service. On s'occupait, bon, nous on préparait et on participait aussi à la distribution des repas dans les étages.
D'accord. Donc vous avez travaillé combien d'années dans cette société ?
Dans cette société, j'ai travaillé 27 ans.
Et vous avez été mis en retraite plus tôt que prévu ?
Plus tôt que prévu, parce que je me suis mis en retraite en 2005. Par ma demande, parce que j'avais 57 ans, et je voyais mes enfants qui grandissaient, qu'il n'y avait personne derrière moi. J'avais demandé, bon ben, comme j'ai vécu avec eux, ils m'ont dit, bon, je n'ai pas droit à la retraite, mais quand même, si c'est ainsi, on a fait ça à l'amiable.
Donc ils vous ont donné une retraite relativement correcte quand même ?
Tout à fait, parce que bon, m'a mis au chômage premièrement. Arrivé à 60 ans, j'ai pris ma retraite.
D'accord. Voilà. Et vos enfants, ils vivent en France ?
Oui, j'ai trois grands qui sont actuellement ici.
Et les autres ?
Les autres sont au pays. Avec toute la famille.
Vous êtes papa de combien d'enfants en tout ?
16.
Waouh !
Oui.
Et avec votre maigre retraite, vous arrivez à envoyer de l'argent au pays ?
Oui, j'arrive parce que, enfin, comme il y a l'entraide chez nous, il y a moi qui est là, il y a mes trois fils, j'ai un cousin aussi parce qu'on est toujours ensemble. D'accord, chacun cotise. Grâce à ça, je parviens à envoyer de l'argent au pays. Sinon, avec la retraite, on n'arrivera pas parce que j'ai 600 euros de retraite.
Combien ?
600 euros.
C'est ça que vous appelez une retraite convenable ?
Ben voilà, 600 euros, plus la retraite complémentaire, 300 euros. Ça me fait 900 euros par mois, quoi, à peu près, si je calcule tout.
Oui, donc c'est vraiment peu. Et vos fils, alors ?
Oui, je les ai fait venir ici. Ils sont tous nés là-bas, mais je les ai fait venir ici. J'avais fait venir deux, 13 ans, 14 ans, qui ont fait l'école ici, et maintenant ils travaillent. Mmh. Et le plus âgé aussi, il est venu à l'âge de 15, 16, 18 ans. Et il est venu avec son permis. Maintenant, il travaille dans la voirie.
Et les deux autres ?
L'un travaille en cuisine, l'autre c'est dans les sentiers du bâtiment.
D'accord. Qu'est-ce que vous pensez justement quand vous voyez tous ces Africains qui font un petit peu le travail que ne veulent pas faire les Français, non ?
Tout à fait, parce que le travail que nous faisons, les Français ne veulent pas faire, parce que c'est très pénible. Et c'est très salissant, comme vous le savez, et très dur. Et tel que je vous ai cité le bâtiment, par exemple. Si vous voyez avec ces marteaux-piqueurs que vous voyez les gens se donner, ou bien des marteaux avec lesquels on casse le mur, donc il faut y aller. Donc vraiment, un Français ne veut pas faire ça. Et mais la restauration aussi. Quand vous voyez 1000 personnes, 400, 800 personnes à faire la plonge de ceci avec des grosses marmites que vous connaissez, donc c'est pas parce qu'il y a des Français qui ont essayé de venir, mais il ne reste qu'une journée ou deux. Ils s'en vont, ils ne peuvent pas.
Vous les avez vus ?
Mais bien sûr, j'ai même travaillé avec eux, mais ils n'ont pas résisté. Parce que c'est très dur et c'est très pénible. Voilà.
Ça, c'est très important à dire aux Français aujourd'hui, non ?
Ça, il y a beaucoup de Français qui ignorent ça, parce qu'ils croient que nous sommes venus pour prendre leur place. Or, qu'est-ce que le contraire ? Le boulot qu'ils ne veulent pas, c'est ce que nous faisons. Alors, si vraiment les gens veulent approuver ça, qu'ils jettent un coup d'œil par là où travaillent les étrangers.
Quelle a été votre première journée à la préfecture ? Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous vous en souvenez ?
Le premier jour à la préfecture, c'était la galère. C'était la galère. De 3h du matin jusqu'à 16h, une entente infinable, interminable. Vous voyez ? Pour avoir le rendez-vous, de ce rendez-vous, on vous donne un papier en disant « Bon, vous avez rendez-vous pendant 3 mois. Vous en avez 3 mois, on va vous donner un provisoire de 3 mois, vous allez attendre encore 3 mois pour avoir une carte séjour de soit auparavant c'était 3 ans, jusqu'à ce que on l'a renouvelé à 5 ans et maintenant à 10 ans. Mm-hmm. Alors à chaque fois, c'est la même chose. Il n'y a pas eu de changement jusqu'à présent. Même maintenant, vous allez à la préfecture, c'est le même scénario.
Alors ce premier jour, c'était en quelle année, cette première file à la préfecture, cette attente à 3h du matin ?
En 1975.
C'était la préfecture de ?
De Bobigny. Même pour le renouvellement des cartes de 10 ans, il faut attendre 3 mois pour le renouvellement et encore 3 mois pour que tu puisses acquérir la carte. Il faut au moins 6 mois d'attente pour avoir la carte.
Et vous n'avez pas le sentiment qu'on vous mène un peu en bateau, qu'on vous...
Tout à fait.
Malade.
Tout à fait. Pourquoi ? Parce que celui qui a vécu 20 ans, 30 ans, je crois que la situation est connue par la préfecture. Bon, à cela, il ne doit pas avoir une telle entente. Parce que si le nouveau dossier, là, c'est compréhensible, on étudie son cas. Mais celui qui a vécu 30 ans et qui, à chaque fois, il renouvelle sa carte, vous connaissez toute sa situation, je ne vois pas pourquoi lui mener à attendre jusqu'à encore comme le nouveau arrivé. Hein? Ça, c'est vraiment incompréhensible.
Alors, comment vous le comprenez, justement ?
Je ne le comprends pas parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, j'ai dit que c'est tout simplement, ils ne veulent pas des étrangers. C'est pourquoi ils font ça, pour les dégoûter, pour qu'ils puissent aller chez eux. C'est tout. Voilà. Ma compréhension est celle-là.
Alors, dites-nous maintenant, monsieur, l'image que vous m'aviez dit de la France avant, on en a parlé. Vous m'avez dit l'enfer aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé entre hier et aujourd'hui ?
Oh là ! Hier et aujourd'hui, enfin, je pourrais dire même hier, c'était un peu mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait du travail en France. Malgré que, on est bien vrai, le racisme, c'est un peu... Moi, je peux être comme quelqu'un d'autre peut être. Ça, c'est dans la tête que ça se passe. Mais, auparavant, on avait du travail. Mais ici, là, maintenant, c'est encore pire. Non seulement il n'y a pas de travail, et les gens ne veulent pas voir les immigrés, ça il faut le dire. Le voir les immigrés, c'est la mort pour certaines personnes. C'est encore pire aujourd'hui qu'avant. La France a complètement changé. Si on retourne en arrière, j'ai préféré les années 70-71 qu'aujourd'hui. Voilà.
Alors, ce sont les Français qui ont changé ? Ce sont les hommes politiques ?
C'est tout le monde qui a changé. Premièrement, par les hommes politiques. Parce que quand ils viennent mener la campagne, c'est contre l'immigration. Leur sujet, ça, c'est ça. Alors, ça montait l'attention des gens. Et ils se disent, bon ben, si c'est là, alors mettons-nous tous à la rencontre des immigrés. Voilà. C'est toujours, premièrement, c'est les hommes politiques. Et ils ont gonflé la population. Maintenant, la population reste derrière eux pour qu'ils puissent avoir leur place. Et une fois leur place, vous voyez, il faut le voir. Hein. Qui homme politique de François Mitterrand, enfin de Giscard d'Estaing, François Mitterrand, jusqu'à ces jours qui n'ont pas fait leur campagne avec l'immigration. Mais l'immigration s'installe toujours, il y a toujours les réglementations. Mais ils en ont besoin. Et ils font semblant de passer. Or que les immigrés ici, ils le savent. Ils savent que sans immigrer en France, ça ne marchera pas. Ça, je ne cache pas de le dire. Sans immigrer en France, c'est la défaite.
Économique.
Économique, oui, c'est la défaite économique. Mmh. Hein? Parce que toutes les contributions que vous voyez, les immigrations qui sont là sans papier, il y en a qui sont vécus 10 ans, 15 ans, mais ils contribuent. Où va cet argent ? Bon, qui dit qu'il ne veut pas d'immigrer, il ne veut pas vouloir aussi de leur contribution. Mais ils ne disent pas les contributions, parce que quand ils chopent un immigré, c'est un clandestin. On va pas, régler tout ce que tu as contribué pour que tu puisses retourner. S'ils faisaient cela, tu n'auras jamais un immigré expulsé qui va revenir. Mais ils ne font pas ça. Ils prennent, ils t'envoient. Mais ce que tu as contribué, où va cet argent? Ça reste pour la France. Alors donc, vraiment, ça, c'est incompréhensible. Voilà.
Mais il faut bien que les Français comprennent cette contribution, justement. Vous pouvez l'expliquer?
Oui, cette contribution, la contribution est tout. La contribution sociale, la contribution des impôts, et au chômage, tout ça, là, toutes les cotisations sociales, hein, on contribue à tout ça. Est-ce que vous voyez? Donc, compte tenu de ça, les sans-papiers, ils n'en bénéficient rien. Même s'ils tombent malades, ils se soignent eux-mêmes par les moyens possibles. Hein? Donc, où va cet argent? Tout cet argent reste dans les caisses françaises, dans les poches des patrons et dans les caisses françaises.
Je voulais vous demander, on parlait du travail. Alors, on parlait du travail pénible pour les immigrés. Vous dites qu'il n'y a plus de travail aujourd'hui. Mais il y a quand même toujours du travail pénible pour les immigrés.
Effectivement, je ne sais pas si vous, l'autre jour, vous avez un reportage des immigrants qui ont fait la grève, qui travaillent à la RATP. Et vous les voyez monter avec les sacs de sable dans le métro. Vous avez vu ça? L'autre soir, ils ont montré. Tu ne vois aucun blanc là-dedans? Ce n'est que des noirs? Est-ce que vous voyez? Bon, il y a ce travail qui est là. Quand vous voyez, regarde sur les serpentiers, ce sont les Arabes et puis les Noirs qui le font. Vous ne verrez jamais un blanc. Peut-être si vous voyez un blanc, c'est des Portugais. Ça, c'est leur domaine. Indépendamment de cela, ce n'est que des immigrés. Alors donc.
Les Portugais sont des immigrés. Hein?
C'est des immigrés, effectivement, c'est ça. Voilà. Hein, ce sont toujours les mêmes immigrés qui font tout.
Oui, sauf que les Portugais, en général, ce sont les chefs d'équipe. Ou...
Voilà, parce qu'ils ont des qualifications, ils ont des métiers. Ceci, bon, ben, ils sont plus, enfin, disons, sont plus placés que nous. Ils sont plus placés que nous.
Oui, mais il y a certains Africains qui, à force d'expérience, pourraient avoir le statut qu'ont les Portugais.
Oui. Il y a certains Africains qui ont aussi qui travaillent dans leur compte. Oui,
je pense à toi, je t'écris d'un 3 étoiles à Cachan. Tu vois, faut pas que tu tombes ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On ne manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Place, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Charter. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au cou de ma fée. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis Africain à Paris. Que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers.
que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout n'aie pas d'inquiétude si un hôtel a brûlé. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville, je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel a été l'acte ou l'injure raciste la plus douloureuse que vous ayez eu à subir ?
Sale noir, va chez toi.
Voilà. Ça, qui vous a dit ça ?
Non, c'est, ça fait longtemps. C'est au moment où j'ai eu, c'était dans les années 75, 76.
Donc il y avait déjà du racisme à l'époque. Vous dites que c'est pire aujourd'hui.
Oui,
mais l'injure, vous l'aviez entendue en 75,
c'est,
pas aujourd'hui.
Oui, c'est pas d'aujourd'hui. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit, ben, il y avait le racisme. Mais c'est empiré aujourd'hui parce qu'il y a moyen de travail. Les gens croient qu'il y a moyen de travail, c'est la faute des immigrés. Et surtout quand les hommes politiques font leur bataille sur l'immigration. C'est ça qui empire la situation. Sinon, le racisme a toujours été. Voilà.
Et cette injure-là, elle avait été dite par qui ? Vous vous en souvenez ?
Par une femme. Je ne sais pas, je ne m'en souviens pas parce que j'étais nouvellement venu. Bon, on s'est bousculé dans le métro, tout ça là. C'est sorti comme ça. Bon, ben, je ne peux pas définir la personne parce qu'en ce moment, j'étais nouvellement venu. Bon, ben, d'accord. Je ne connais pas.
Voilà. Et récemment, vous n'avez pas eu à subir ce genre de trucs comme
depuis
ça ?
Lors, non, depuis lors, non. Parce que d'accord. Là où je travaille, on se respecte. Là, bon, je n'ai pas eu de problème. Jusqu'à ce qu'à ma cessation du boulot. Non. Non.
Et un acte raciste, quelque chose de discriminant, où on vous a empêché soit d'accéder à un travail, soit d'accéder à un statut, etc.
Non, ça, je n'ai pas eu, mais je peux le dire que je l'ai eu. Pourquoi ? Parce que le foyer Lingomont, quand on nous a expulsé du foyer, disons, on nous a expulsé parce que le foyer Lingomont, c'était invivable. On était 800 personnes là-dedans. Donc, on nous a partagé en disant, bon, on va vous faire un foyer avec des promesses et tout. On a dit, OK, on a beau discuter, nous croyons la parole, parce que la parole donnée chez nous, c'est de l'or. Bon. On s'est mis d'accord, il y a certaines personnes qui sont parties à Gare de Gonesse, d'autres sont parties à Bonneuil, et il y en a les gens de Paris qui ont logé, ceux qui travaillent là, à la ville de Paris, à Rue Clisson, dans le 13e arrondissement. Et nous, les restants, on nous a logés à la rue Nouvelle-France. Comme prévu, qu'il y aura une reconstruction sous le même emplacement pendant 24 mois et qu'ils nous y retourneront.
Qui vous avait raconté ça ?
C'est Brar. Il était le maire. C'est lui qui nous a raconté ça. C'est lui qui a tenu cette promesse. Et après
un communiste, on peut le rappeler.
Effectivement. Après 2 ans, on est allé lui voir. Il nous a dit, bon, le plan n'a pas été fait, les ressources n'ont pas été acquises, donc vous attendez encore un an de plus. Donc, à notre grande surprise, en 84, ils nous disent, il y a eu la décentralisation. Bon, que là où nous étions, fait partie de Paris, donc moi, il ne peut pas abriter les gens de Montreuil. Voilà où la guerre a commencé. Mm-hmm. Ce que vous voyez, c'est là que la manifestation a commencé. En disant qu'il n'a pas tenu ses paroles, donc nous ne pouvons plus rester là où nous étions, parce que c'est des baraques, ça a commencé à pourrir. Mais malgré tout ça, nous sommes restés jusqu'en 95, dans les baraques, à Nouvelle-France. De 80 jusqu'en 95, c'était des baraques, des plaques, des contre-plaques faites à maison, là. Mm-hmm. C'est ce qu'ils ont fait.
Des trucs de chantier, quoi.
Des trucs de chantier qu'on nous avait installés. Et comme je t'ai dit, c'était prévu pour 24 mois. Ça pouvait tenir ça. Mais nous sommes restés 15 ans.
Dans ces baraques.
Dans ces baraques, pourries. Donc, si je vous dis j'ai eu des discriminations, là, c'est voilà. Mm-hmm. C'est une des...
Et qu'est-ce qui s'est passé, alors, en 95 ?
En 95, il nous a proposé des sites de 15 à 20 personnes passées par là. Nous, nous avons dit non. Nous voulons habiter ensemble. On était 800. Vous nous avez dit, c'est trop. On est devenu à 400, vous avez dit trop. Et on est là, 200 personnes sur Nouvelle-France. Vous nous dites que vous allez le faire. Si vous ne pouvez pas avoir un foyer, essayez de le faire en deux. Mais 20 personnes par-ci, alors quand nous avons refusé maintenant, il a fait venir les quatre plats pour raser le foyer. Il nous a mis dehors.
Alors, quand vous dites « il », c'est ?
C'est le maire, toujours. C'est lui qui nous a mis dehors.
Jean-Pierre Brar.
Jean-Pierre Brar. Mm-hmm. Il nous a mis dehors.
Mais au motif que l'emplacement n'était plus Montreuil, mais Paris.
Mais Paris. Voilà, parce que là où il y a le Décathlon, il a construit le Décathlon là-bas. Au lieu de nous, il a préféré mettre un centre commercial qui est rentable par rapport à nous, les immigrés.
D'accord. Mais donc c'est toujours Montreuil, Décathlon, hein ?
Effectivement, c'est toujours Montreuil. Mais il nous a soufflé dans l'oreille en disant que c'est ça, or que ce n'est pas vrai. Donc, oui, le foyer était rasé. La place, elle est là. Elle est restée pendant 9 ans sans construction. Et pourtant, vous pouvez sortir, il y a le permis de construction, tout ça là qui est là. Vous avez c'est affiché là. On a les pancartes et tout ça là. Il est resté 9 ans sans aucun travaux. Parce que le GIREP avait commencé à travailler là-dessus en disant qu'il va construire le foyer. Une semaine, deux semaines plus tard, il y a eu une manifestation. On ne veut pas le foyer à Montreuil. Or, que c'est le premier foyer à Montreuil.
C'était le premier foyer qui a été construit à Montreuil en quelle année ?
En 68. Août 68. Quand les immigrés arrivaient, ils ne savaient pas où aller. Bon, ils avaient c'était une cabane, si vous voulez.
D'accord. Les premiers logements des immigrés, c'était des...
Des machines comme ça. Donc, comme ils ont vu que ce n'était pas un lieu d'habitation, ils ont dit, tenez, on va vous faire un foyer. C'est là qu'ils ont construit ces bâtiments Lingomont.
Et donc, vous avez été logé en 71. Enfin, les gens qui étaient en 68, donc dans ces logéco, ont été enfin logés décemment, on peut dire, dans un foyer. Par rapport aux baraques, c'était toujours mieux. Mais quelques années après, ils vous ont dit, c'est plus ça, quoi.
Ils ont dit, c'est plus ça qu'il fallait que nous acceptions les sites qu'ils nous ont proposés.
Oui. Mais en fait, l'argument, c'était que vous étiez trop nombreux parce que c'était devenu insalubre.
C'était devenu insalubre. Vous savez, c'était même pas insalubre, hein. C'est pas l'insalubrité, c'était quasiment pourri. Parce qu'il y a l'eau qui est rentrée, on a couvert ça avec des bâches en haut, et des baraques, des contreplaqués qui sont installés pour 24 mois, qui résistent pendant 15 ans. Rendez-vous compte de ce que ça va faire. Le bois était pourri. Hein? Ça tombait. Alors donc, vu à cette situation, ils savent qu'un jour à l'autre, ça va faire le scandale. Alors ils ont dit, se débarrasser de ça. Ils ont dit, voilà, il y a des sites, soit vous les prenez, si vous ne les prenez pas, on va raser le foyer. Voilà. Comment c'est venu ? Nous, on dit, on ne va pas dans les sites, on ne va pas 20 personnes, 10 personnes, on ne le veut pas. Alors, ils ont rasé le foyer, nous sommes sortis, on est restés dehors. On est venu aux bourses de travail, on est restés au foie. Hein? Ils nous ont sassé de là, nous avons occupé d'autres, beaucoup de sites que nous avons occupés.
Dans Montreuil, toujours.
Dans Montreuil, toujours. On nous a toujours sassé. Heureusement, on a eu la dame de la maison ouverte. La maison verte, c'est une maison qui accueille des gens en difficulté, en général. Alors, donc, ils nous ont accueillis pendant 3 mois. Après ces 3 mois, comme c'était convenu, on a quitté là-bas. On est venu s'installer dans un café-restaurant qui est au parvis de la porte de Montreuil. On est resté quelques semaines là-bas. Après, nous sommes venus ici, squatter ici, et on s'est installé.
Alors, expliquez-nous, quand vous dites ici, c'est le foyer, rue Centenaire. Voilà, foyer du Centenaire, à Montreuil, donc pas très loin de la rue de Paris. Ouais. Expliquez-nous pourquoi ce lieu, comment vous êtes tombé sur ce lieu du Centenaire, de la rue Centenaire.
La rue Centenaire, comme on tournait en rond dans tout le quartier pour trouver un endroit vide. Alors, on s'est aperçu que cet endroit était vide et que c'était un peu grand. Alors, on a fait venir 2 ou 3 bonhommes qui ont cassé la porte, qui sont rentrés. Et qui aussitôt ont mis le mot là-dedans. Alors effectivement, 2-3 jours plus tard, on les a tous rejoignés là. Mmh. Alors il y avait les policiers qui voulaient intervenir, tout ça. Mais comme les Montreuils, ils ont dit au maire qu'ils ne veulent pas d'intervention à Montreuil. Les immigrés, c'est les travailleurs, ils n'ont rien fait du mal, ils ont demandé leurs droits. Si vous ne pouvez pas les loger, intervention policière, non. Là, on est sauvé par là. C'est pourquoi on est là jusqu'à présent.
Il y a eu une mobilisation de Montreuil, vous voulez dire ?
Oui. Pour cela, il y a pas tout le monde, mais il y a quelques élus, hein, qui ont dit qu'ils ne veulent pas d'intervention. Qu'ils veulent pas d'intervention, parce que ce n'est pas une cause à intervenir. C'est un droit qu'ils ont dit, donc ils ont le droit à manifester. Alors, s'ils font une occupation, c'est tout leur droit.
Alors, ce lieu du Centenaire, c'était quoi à l'origine, quand vous êtes rentré ?
C'était un lieu où c'était un vieux dépôt. C'était un dépôt. Parce qu'après, nous avons fini par voir le propriétaire.
Qui était un particulier.
Oui, qui était un particulier. On a pris contact avec lui. Quand nous sommes installés, on a mis le courant, tout ça là. Après, nous avons cherché à voir le propriétaire. Il est venu, nous avons discuté. On a convenu. Il dit, oui, c'est à lui. Personne ne peut nous expulser parce que il est le propriétaire d'ici. Donc, mais nous allons payer quelque chose. Nous avons dit, OK. Depuis lors, on paye 30 000 francs par mois, en tout.
Donc chacun payait combien en tout?
Et là, ça dépend. Parce qu'avec la saison, comme nous marchons à l'électricité, le gaz, tout ça là, chacun paye 150 euros des fois. Mais autant en été, c'est 120 euros par an.
Alors, c'est qui gère tout ça? Il y a quelqu'un, il y a un délégué qui s'occupe de ça? Comment ça marche?
Oui, il y a un délégué qui est là, c'est moi qui m'occupais de tout ça. Mais quand moi je suis parti, j'ai un remplaçant qui est M. Cicero. Il y a d'autres camarades. C'est lui, le monsieur qui est sorti là, mm-hmm. il fait partie des délégués. Mm-hmm. Comme on est par communauté, mm-hmm. alors chacun gère sa communauté. C'est ça qui a rendu facile notre gestion. Parce que chaque communauté est responsable de soi-même.
Alors expliquez-nous ce que c'est qu'une communauté.
Une communauté, c'est des gens qui viennent de la même commune, si vous voulez.
Oui.
C'est le village qui se groupe, on le dit ça, des communes.
D'accord, c'est un groupement de villages, une commune.
On fait ça, une commune. Alors, quand nous nous trouvons, il y a chacun qui gère sa commune. Parce que vous voyez, il y a le doyen de la commune qui est là. Mais nous avons un doyen qui est plus âgé que tout le monde, qui coiffe tout. Chaque commune, il fait un représentant qui va encaisser l'argent de ses ressources. Et quand tout sera récolté, ils vont chez le doyen, le plus âgé, ils encaissent. Alors nous avons les caisses et des comptes au nom de l'association que nous avons versé et que nous avons donné des relevés à EDF et aux zoos pour les prélèvements. Mmh. Et quant au propriétaire, on fait un chèque pour le payer.
Alors combien vous lui donnez par mois aujourd'hui?
C'est toujours le même montant, il n'a pas changé. 30 000 francs, ce qui fait à peu près 4 500 euros je crois.
Il n'a pas augmenté son loyer. Mais alors on peut dire quand même que l'État est problématique là aussi.
Tout à fait. Parce qu'ils savent que nous sommes là, nous avons revendiqué. Nous sommes venus ici en novembre 1995. Mm-hmm. Ça fait 12-13 ans. Mm-hmm. Alors jusqu'à présent, c'est des fausses promesses qu'on nous dit. On dit aujourd'hui vous allez être là, demain ils disent non, il y a ici, c'est là. Jusqu'à présent, on n'a eu rien de concret. Les promesses de la municipalité. Parce que c'est la municipalité qui est notre interlocuteur auprès de la préfecture. Parce que le préfet même est venu ici. Hein, il nous a promis. Cette promesse n'a jamais eu le jour. Ils avaient même dit... C'est impossible que nous restions là pendant encore. Et ils nous avaient même dit, en hiver, vous ne pouvez pas rester là. Je vais essayer de saisir un endroit provisoirement avant qu'on aille un terrain pour faire une construction. Mais vous ne pouvez plus rester là. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. Est-ce que vous voyez? Alors, ce sont des promesses que nous avons eues et qui ne sont jamais été tenues.
Alors, qu'est-ce que vous attendez concrètement?
Nous, nous attendons d'être relogés. Parce qu'ils nous ont promis qu'ils ont eu un terrain, qu'il faut attendre les insectes et puis tout et pour étudier. Et au-delà, ils vont venir pour qu'on puisse un cahier de charge. Enfin, le mois dernier, c'est ce qui nous a été dit. Mm-hmm. Alors, nous attendons que cela se réalise.
Vous avez un petit peu cette impression que les pouvoirs changent, mais que rien ne change finalement depuis 30 ans.
Le pouvoir change, rien ne change, c'est toujours la même personne. C'est la personne qui change, mais le dossier est toujours là, c'est le même dossier. Est-ce que vous voyez? Donc, même si l'ancien est parti, la nouvelle personne est toujours à sa place, c'est toujours la même politique. Hein, voilà.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Y'a trop de... Allo elle, para fina ma salua. Naluma wulewa, naluma wulewa, mane benamfa. Trop de blabla, j'entends trop de blabla. Et tout ce qu'ils racontent, tout ce qu'ils me disent, moi je n'y crois pas. N'est-ce pas l'Amérique? Para fouiller Joyara, Netala Italia, para fouiller Joyara, Nenana Africa, para fouiller Ome Joyara, ya no, Nenma doke daye, kadoke daye, kadoke daye, Romance bla bla bla, Vode bla bla bla, ya Vode bla bla bla. Les faux discours, c'est l'éducation, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Ils ont jamais trouvé de solution, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de bla bla bla. Tout ça c'est de la fiction, bla bla bla. Promesse bla bla bla, y'a trop de. Allo Willy, voilà finalement ma salua.
Revenons un petit peu sur l'histoire des foyers, du dispatching justement qui vous avez proposé. Parce que dans beaucoup de foyers, on propose une réhabilitation, mais finalement on transforme des espaces dans des petites chambres individuelles avec des loyers plus élevés. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution des foyers?
Et pour cela, je peux dire aussi, c'est une partie, les locataires aussi qui ont voulu ça. Même parmi ici, quand on nous a proposé, ils nous ont demandé quel mode de vie que nous voulons mener. Nous, nous avons dit 2 personnes ou 3 personnes par chambre. Si ce n'est pas ça, on ne veut pas.
Parce qu'aujourd'hui, dans ce foyer de la rue du Centenaire, combien vous êtes par chambre?
Là, vous pouvez vous trouver des chambres de 10 personnes, 12 personnes.
Donc on est retourné à la case départ finalement des années 70.
C'est pas un foyer, c'est un endroit pour que chacun puisse mettre un lit pour passer la nuit. Hein? Ce n'est pas un foyer, c'est pour dormir, passer la nuit et puis aller à son travail pour ne pas rester au froid. Hein? Vous ne voyez pas les lipicots que vous les avez vus là? Les gens, ils déplient ça la nuit, ils dorment là. C'est pour être chaud.
Je vais expliquer un petit peu aux auditeurs. Il y a une grande chambre, enfin une grande pièce principale quand on arrive, avec une sorte de petit bar. Et puis là où sont les cuisines. Et juste à côté, il y a une enfilade de lits pliants. Et on se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est un abri de réfugiés? Qu'est-ce que c'est?
Voilà, c'est tout à fait, on peut dire comme ça, parce que ces gens-là, bon, ils n'ont pas. Nous, qui est là pendant 30 ans, on n'a pas eu de quoi. Ce n'est pas les nouveaux arrivants qu'on va voir. Moi, ça fait 40, ça me fera 39 ans que je suis en France. Et depuis, en 71, nous avons déclenché la grève, depuis l'Engouement. Et jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Vous voyez? Donc, on n'a plus d'espoir, même on n'a même plus d'espoir. Voilà.
Alors, vous parlez de grève, c'est très intéressant parce que je voulais aussi vous poser la question de ce grand mouvement de grève qui a eu lieu. Vous avez participé à la grève alors?
Tout à fait. J'ai participé à la grève.
Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette grève.
Cette grève, bon, comme vous le savez, bon, quand on nous a proposé d'être logés, dans les années 70, commence à débuter la grève au Lingomo. Donc nous avons dit non, parce que les 400 personnes ne veulent pas se disperser. Parce que ça faisait quoi? De 68 jusqu'en 80, ça fait un bail qu'on est ensemble. On ne voulait pas se disperser. Avec le gestionnaire, nous avons commencé la grève avec le gestionnaire d'abord.
Et qu'est-ce que étaient les revendications de l'époque?
Les revendications de l'époque, parce que ceux qui étaient gestionnaires, on avait l'eau chaude que le vendredi.
Non.
Je te le dis. C'était un arabe qui gérait. On avait l'eau chaude que le vendredi.
Non, mais ce n'est pas la faute de l'arabe qui gérait quand même. C'était qui le propriétaire?
Le propriétaire, c'était l'Aftam, mais la gérance appartenait à un arabe qui l'avait confié la gérance.
Et c'est lui qui mettait l'eau chaude ou pas l'eau chaude quand il voulait?
Il le mettait quand il voulait. Il le mettait quand il voulait. C'était là où nous avons déclenché la grève.
Et ce gérant arabe, il était un ancien militaire ou pas?
C'est un ancien militaire. Ouais. C'était un ancien militaire. Français ou harki, ouais. C'était un harki. Voilà. Donc, nous avons fini par récupérer l'endroit. On l'a sassé du foyer et nous avons pris la gestion du foyer nous-mêmes.
Ah, vous avez réussi à le chasser?
Si, on l'a sassé. Nous avons... Le foyer Lingomo est resté 10 ans à notre gérance. De 71 jusqu'en 80, jusqu'à nous sommes, on a eu l'accord avec la municipalité de Montreuil pour être relogé. C'était sous notre gérance.
Et alors l'AFTAM, elle n'avait plus rien à voir avec ça alors?
Non.
Et alors comment ça s'est passé la gestion? Vous êtes bien débrouillé finalement pendant 10 ans?
Comme je vous l'ai dit, nous avons toujours été ainsi. Parce que ce sont les mêmes personnes qui sont là. Les anciens, il y a eu de nouveaux, d'accord. Mais c'est référer toujours aux anciens. Hein, c'est par communauté, on a toujours vécu comme ça, on a toujours géré, on n'a jamais eu de problème. Jusqu'à présent, ils nous félicitent quand ils viennent et disent, mais comment se fait-il que ça fait 20 ans ou plus, vous êtes autonome et il n'y a toujours pas de problème. Parce qu'on sait quoi faire, nous savons comment faire et ça marche toujours.
Alors justement, dites-nous un petit peu qu'on comprenne le fonctionnement. Quand il y a un problème, quand il y a quelqu'un qui ne veut pas payer, ou il y a forcément toujours des problèmes dans la gestion. Comment vous gérez ça, vous?
Effectivement, quand quelqu'un ne veut pas payer dans une communauté, on se réunit, on appelle la personne, on dit voilà, si tu vois que toi tu es au chaud, c'est qu'il y a tes copains qui ont payé. Donc, si tu ne veux pas être expulsé du foyer, c'est mal vu pour toi, parce que même en entendant chez nous, parce que vous savez, notre force... C'est nous sommes en liaison avec les parents au pays. Parce que chez nous, dans la famille, c'est le plus âgé qui commande. S'il n'y a pas le papa, c'est le plus âgé qui commande. Alors, si le papa n'est pas là, si le plus âgé te dit « fais ça, tu as droit de le faire », tu ne le fais pas, il transmet ça au père. Et le père, il te dit ah, « tu m'as désobéi, tu ne veux pas entendre ça ». C'est une malédiction pour nous chez nous. Alors, c'est avec ça que nous arrivons toujours à gérer nos affaires. Parce que vous voyez.
Parce que les jeunes finissent toujours par écouter les plus âgés.
Voilà. Et quand le jeune entend ça, il cède. Il va céder. Il va dire, si j'ai fait ça, je serai mal vu par les parents. Et pourtant, personne ne veut pas avoir mal vu par ses parents. Et surtout, avoir la malédiction. Parce qu'ils vont te maudire. C'est très grave pour nous. Parce que vous voyez. Alors, voilà notre force. Voilà. On n'appelle pas police, on n'appelle rien. On s'est réunis, on t'a dit, voilà, tu es venu, tu as trouvé les gens. Pourquoi? Et notre deuxième force, c'est quoi? Quand tu arrives tout nouveau, avant d'avoir du travail, on ne te demande rien. Tu ne payes ni loyer, ni ration pour manger. Qu'est-ce qu'ils le font?
Ça, c'est la solidarité africaine.
Effectivement. Qu'est-ce qu'ils le font? Ce sont les aînés qui sont là. Alors, toi, tu as eu du travail, maintenant, tu veux nous refuser? Ok. Si tu peux nous refuser, vas-y. Voilà. Ce sont les deux points forts.
Et vous pouvez aider quelqu'un pendant plusieurs années comme ça qui ne trouve pas de travail?
Tout à fait. Il y a des gens qui sont là 2 ans, 3 ans, qui dorment, qui mangent à leur faim et qui s'habillent. Quand tu le vois dans la rue, tu dis que ce sont des gens comme moi, comme toi. Ouais.
Ça, c'est beau.
C'est pourquoi nous voulons que nous soyons nombreux et nous vous tenons au foyer. Si nous mettons 10 personnes par là, s'il y a 2 qui ont chômage, les 8 ne peuvent pas parvenir. Mais quand on est 100 personnes, même s'il y a 10 personnes, on peut toujours parvenir à les entraider.
Et aujourd'hui, combien il y a de personnes dans ce foyer? Vous êtes combien en tout?
Ici, actuellement, on est 130 personnes à peu près.
Vous êtes sûr que ce n'est pas plus?
Non, parce que le nombre n'est pas fixe. Ouais. Il y en a qui viennent là le jour, mais ils vont dormir ailleurs la nuit. Voilà. C'est pourquoi.
Et sur les 130 personnes, combien sont au chômage?
Sur les 130 personnes, je peux dire qu'il peut y avoir des chômages partiels, mais il n'y a pas de chômage à longue durée. On n'en a pas. Les sans-papiers qui ne travaillent pas, même s'ils travaillent, comme vous le savez, il n'y a rien à cacher parce que, voilà. Mais c'est soit un mois de travail, un mois d'arrêt, deux mois de travail. Mais il n'y a pas de chômage comme moi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Est-ce que vous pouvez nous dire, quand vous vivez donc en France, puisque vous vivez un peu plus ou moins 6 mois ici, 6 mois au Mali, qu'est-ce qui vous manque le plus du Mali quand on est ici en France?
C'est la famille. C'est la famille, parce que je suis un homme marié, j'ai mes enfants, mes femmes qui sont restées, et c'est tous les parents, si vous voulez. Parce qu'un père de famille, quand tu es en dehors de ta famille, c'est agaçant. Et c'est l'obligation qu'il nous fait, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il soit là pour faire survivre la famille. Sans cela, personne ne veut quitter sa famille. Donc, même les Français doivent se rendre compte que cet acte vraiment est invivable. C'est invivable. Hein? Se séparer de sa femme pendant 2 ans, voire 3 ans, certains, pour certains, et même 10 ans pour d'autres. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très scandaleux. Mais ils le font ça pour faire survivre la famille. Hein? Il n'y a rien de plus mauvais qu'une famille, un père de famille sans sa famille. Voilà.
Comment on peut supporter ça, justement, l'absence des siens?
Enfin, on le supporte dans l'obligation de faire survivre. Enfin, on le supporte parce qu'on sait que, étant ici, sa famille vit bien. C'est le seul espoir qui fait qu'on le supporte. Voilà.
Est-ce qu'au Mali, actuellement, donc quand vous êtes au Mali, qu'est-ce qui vous manque le plus de la France?
Moi, il me manque rien de la France. Ce qui me manque, c'est le travail. Voilà. La France, ce qui me manque, c'est le travail. Autrement, je n'ai aucun contact de la France si ce n'est pas mon boulot de travail, c'est tout. Parce que je ne dors pas bien ici. Hein? Je ne mange pas bien ce que je veux. Donc, je ne me promène pas autant que je veux. Je n'ai pas beaucoup d'amis comme je veux. Je ne peux pas me promener comme je veux. Donc, rien ne me manque si ce n'est pas le travail.
Pourquoi vous dites que vous n'avez pas d'amis comme vous voulez?
Mais si, parce que là, quand je suis au Mali, j'ai des cousins. Parce que nous, au Mali, la famille, c'est limité simplement les frères, les sœurs. C'est pas ça. Les cousins, les pères, les grands-pères, les oncles, tout ça. Parce que vous voyez, c'est toute une famille, c'est tout un village, tout le Mali, si vous voulez. Parce qu'il y a le cousinage aussi au Mali. Hein, ici, il n'y a pas ça. Quand je sors dans la rue, on me dit Baradji par ci, on me dit Baradji par là. Est-ce que vous voyez que, moi, je suis dans la région de Kaï. Je viens à Bamako, je trouve des cousins. Je viens à Kaï, à Sigasso, tout ça. Il y a cette humanité qui est là. Et ici, je n'ai pas ça. Ici, j'ai pas ça.
Vous voulez dire que tout le monde vous connaît là-bas, quoi.
Ouais, ouais. Même si on ne se connaît pas. Le Mali, on ne se connaît pas. Il suffit simplement de se déplacer. Même toi, si tu vas demain au Mali, tu prends les transports là, les transports en commun, vous allez voir les gens qui vont se samailler. Ça, c'est Traoré, ça, c'est Diarra, ça, c'est Sissoko, ça, c'est Konaté. Ça, c'est... Mm-hmm. Est-ce que vous voyez, il y a cette cousinage qui est là, qui est en train de qui relie les gens, même de l'autre extrémité du pays. Hein. Si toi, tu viens de Kidal, lui vient de Kaï. Hein, toi, tu es Konaté, lui, Sissoko, vous vous chamaillez. Mm-hmm. Il y a ce cousinage-là et vous venez tout de suite des parents.
Qu'est-ce que vous appelez cousinage ?
C'est-à-dire, bon, ben, vous attaquez mutuellement comme ça.
Oui.
Parce que vous voyez, vous attaquez mutuellement, vous causez, alors toi, tu es comme ceci, tu es comme cela. Vous voyez, hein, c'est ce qu'on appelle le cousinage.
Ah oui, vous voulez dire ces joutes verbales un petit
voilà,
peu,
c'est ça,
ça
voilà, c'est ça.
Hein,
c'est ça.
De jeu,
voilà, effectivement, c'est ça.
J'ai entendu parler de cette
voilà,
chose-là.
Voilà, effectivement, c'est ça qui a développé, c'est ça qui a fait notre force. Est-ce que vous voyez, c'est ce qui nous manque. Ici, on n'a pas ça. On a ça tout simplement dans le foyer.
Mais il faudrait vraiment faire comprendre aux éditeurs ce que c'est, parce que ça, on ne connaît pas du tout ici.
Non,
ça ne se pratique ici, pas du tout ici.
Ils ignorent ça, ils ne connaissent pas. Ici, tu sors dans la rue, personne ne dit bonjour. Tandis que quand on m'a dit, toi, demain, tu sors dans la rue, tu me dis bonjour, comment vas-tu? Et ta famille, tu vas bien, tu te portes bien, tu vois? Tandis qu'ici, tu poses cette question, comment vas-tu? Ben, il ne me connaît pas. Et ta famille, il ne connaît pas ma famille. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est.
Oui. C'est le sentiment aussi d'être faire partie d'une grande famille finalement.
Tout à fait. Même si c'est pas ça, c'est quelqu'un qui a l'amour de toi, hein, il te prend
sans
comme
te
lui, te connaître, hein.
Sans forcément te
voilà,
connaître.
Voilà, sans forcément te connaître, tu vois. Il souhaite un bonheur pour toi et pour ta famille. Voilà. Voilà.
Et c'est peut-être ce qui nous manque ici en France, ce sens de l'accueil.
Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça en France. C'est chacun pour soi. Voilà.
Maintenant, j'aimerais qu'on parle de vos enfants, justement. Et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez envie de leur transmettre à eux de votre expérience de l'immigration et plus généralement de leur transmettre les choses importantes que vous avez apprises de la vie.
Enfin, ce que moi j'ai à transmettre à mes enfants, surtout ceux qui sont actuellement avec moi en France, ce n'est pas de donner toute leur vie en France. C'est-à-dire rester en France pendant 40 ans, 30 ans, ça ne sert à rien. Et je les ai parlé déjà. C'est d'engager des projets au Mali pour qu'ils puissent aller le développer là-bas. Quel que ça soit, le minimum qu'ils gagnent, c'est mieux quand on est chez soi qu'à l'immigration. Parce qu'un immigré est toujours mal vu, quel que ça soit sa catégorie. Voilà.
Qu'il soit ouvrier ou qu'il soit professeur d'université.
Mais bien sûr. Et j'ai travaillé dans les hôpitaux. Je connais des docteurs africains. Qui travaillent, des stagiaires. Et quand ils me disent leur salaire, c'est à peu près le salaire comme moi.
Non.
Mais si je vous dis, et ils ne font que des remplacements, ils n'ont pas un place fixe, c'est le docteur. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'ils ont? C'est l'immigration qui a fait ça. Sinon, si j'étais là, il y en a qui ont les mêmes catégories que certains blancs, mais qui n'ont pas les mêmes postes que.
Qui n'ont surtout pas les mêmes salaires.
Les mêmes salaires, est-ce que vous voyez? Donc tout ça, c'est l'immigration. Mm-hmm. Donc tout le monde est bien chez soi. Voilà.
C'est un petit peu triste comme constat, non? Parce que l'humanité, elle est faite pour bouger, pour aller à la rencontre de l'autre.
Tout à fait. C'est ce qu'on dit. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Si c'est ce qu'on dit s'est passé, il n'y a pas de problème. C'est ce que Dieu a dit dans le Coran. Il a dit, j'ai fait la terre vaste. C'est pour que quand vous en êtes d'un côté, que vous ayez de l'autre. Pour trouver la liberté. Si moi, je suis venu en France, c'est pour ne pas unir. Mais si je trouve que la France est encore plus galérée que chez moi, il vaut mieux que je retourne dans les miens.
Parce que justement, est-ce qu'actuellement le gouvernement du Mali n'est pas en train de favoriser ce genre de choses? Est-ce que ça n'est pas en train de bouger au niveau du...
Ça bouge actuellement, mais effectivement, c'est ce que je conseille aux enfants. J'ai dit, auparavant, on n'avait pas cette chance-là, mais là, maintenant, ça bouge au Mali. Parce qu'il y a la démocratie qui s'est instaurée là-bas. Mm-hmm. Et puis aussi, il y a l'aide du gouvernement qui est là, qui n'avait pas ça auparavant. Parce qu'il y a le PDS, le Programme de Développement Social pour le Mali. Est-ce que vous voyez? Il y a l'agence de l'emploi qui est là, qui aide les jeunes. Il y a les caisses et de développement qui est là, qui aide les associations. Tout ça, auparavant, il n'y avait pas ça. Mais maintenant, ça bouge au Mali. Tout jeune qui a une connaissance, une expérience, peut vivre au Mali actuellement. Auparavant, dans notre temps, il n'y avait pas ça. mais toute catégorie, professeur, même ouvrier, machin, tout ça au Mali, actuellement, on vit là-bas.
Hein. Alors vos fils, ils vont bientôt rentrer ?
Enfin, c'est ça mon conseil. C'est que moi, j'ai le conseil, c'est ça. Je veux qu'ils rentrent, qu'ils fassent quelque chose. Parce que bon, déjà, quand moi je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé acheter 10 hectares de terrain pour faire une exploitation. Dans cette exploitation, on va faire l'élevage, on va faire l'agriculture, et l'élevage de poulets, et vaches et moutons. Il y a du quoi à travailler.
Oui. Donc, il faut avoir les fonds pour acheter les bêtes.
Voilà, voilà. Il faut avoir les fonds. J'ai déjà des vaches, j'ai des vaches. Bon, là, avec un peu de fonds, on peut aussi se développer. Enfin, ceux qui me disent, bon, papa, du moment qu'on a nos papiers, on peut aller au Mali, réaliser le projet, comme vous l'avez dit, faire le développer. Et puis quand nous voyons que c'est en route, pourquoi pas rester au Mali ?
Vous ne m'avez pas répondu à la question de la leçon de vie maintenant, hormis l'histoire de l'immigration. Qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent de vous et de votre parcours ?
Ils ont vu ce que leur père a vécu. Et ils ont eu aussi ce que leur père a fait pour eux pendant l'immigration. Quand je suis venu, au moins, moi j'étais dans le village, j'ai eu à construire des maisons dans la capitale. J'ai eu à avoir quelques bétails. Et comme je viens de dire, j'ai vu un champ, un berger de 10 hectares. Pour eux, tout ça, c'est pour les enfants. Donc ça, c'est un parcours que... Et puis dire, bon, papa a quand même laissé cet héritage au moment de son immigration.
Voilà. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie a été un peu un sacrifice ?
Tout à fait. Un grand sacrifice. Un grand sacrifice pour mes enfants qui sont là et pour ceux qui sont derrière. Et pour toute la famille. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est tout Malien que vous voyez ici, il se sacrifie pour des centaines de gens. C'est pas seulement pour sa famille. C'est pour à peu près, disons, toute la... Si moi je vous dis que dans mon village, il n'y avait pas d'école. Et nous avons construit jusqu'à 9 classes actuellement, les immigrés du village. On n'avait pas de l'eau. Et nous sommes en train de faire le château d'eau. On a creusé depuis de grands diamètres. Et il n'y avait pas de dispensaire. Nous avons construit un dispensaire. Alors ça c'est quelque chose que voilà.
Alors le problème c'est est-ce que finalement les immigrés ne remplacent pas le rôle de l'État ? Est-ce que c'est pas à l'État de construire dans les écoles ? Est-ce que c'est pas à l'État
Tout à fait. L'État le reconnaît et il ne manque pas de dire que vous êtes des fils du pays. Pourquoi ? Parce que c'est le pays qui devait faire ça. C'est le gouvernement qui doit faire ça. Mais nous n'avons pas les moyens de les faire dans tout le pays. Il le dit. Ça c'est clair. Mais toute personne qui aurait à faire qui viennent, nous allons lui faciliter toutes les formalités. Et le peu qu'on peut l'aider, on le rendra. Là, il nous dit, ça c'est clair. Nous remplaçons un peu. Ça c'est vrai. Mais ils sont reconnaissants. Voilà.
D'accord. Donc peut-être que ça va bouger dans les années qui viennent.
Ça bouge. Parce que quand nous avons construit 6 classes, le gouvernement aussi est venu construire 3 classes de plus, construire une cantine scolaire de plus, pour dire, voilà, on sait que vous êtes pour le Mali. Le Mali est pour vous. Vous voyez ? Donc on se complète. Voilà.
Comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager. Travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Avoir un beau métier, pouvoir voyager, connaître ce que vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.